Bonjour à tout le monde une nouvelle fois. Je vous invite à venir écouter donc nos trois intervenants qui vont nous parler pendant une heure de choses qui nous entourent et dans lesquelles nous baignons tout le temps, mais que nous ne voyons pas, qui sont les virus, les bactéries. Alors, la question se pose, sont des mutants insaisissables? Donc, grâce à monsieur Philippe Roingeard, qui est professeur des universités, praticien hospitalier à la faculté de médecine et au CHU de Tours, il dirige une équipe de recherche INSERM à Tours, dont le travail est focalisé sur le virus de l'hépatite C et le virus de l'immunodéficience humaine, donc le VIH. Il est également directeur de l'école doctorale santé, sciences biologiques et chimie du vivant des universités de Tours et d'Orléans et responsable de la plateforme de microscopie de l'université de Tours. Avec nous, nous avons aussi le plaisir d'avoir M. Max Brooks, qui est entre autres l'auteur des best-sellers World War Z, qui a été adapté au cinéma avec Brad Pitt, le guide de survie en territoire zombie et le roman graphique Attaque répertoriée. Ses livres ont été traduits dans 30 langues à travers le monde et il vient de lancer une nouvelle série de comics, The Extinction Parade, où s'opposent des zombies et des vampires. Tout ça lié à des virus, certainement, il nous en parlera. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Gérard Klein, qui est un véritable pilier de la science-fiction française. Il a publié depuis l'âge de 18 ans. On lui doit de nombreux romans qui restent dans nos mémoires, que je ne peux pas tous citer. En dehors de son travail d'auteur, il a lancé chez Robert Laffont la fameuse collection Ailleurs et Demain, qu'il dirige toujours. Il dirige également la série de science-fiction du Livre de Poche. Il a publié de très nombreux articles et essais, principalement sur la science-fiction. Il a reçu en 2005 le Pilgrim Award, décerné par la Science Fiction Research Association pour l'ensemble de son œuvre d'écrivain, d'essayiste et d'éditeur. Bien, les virus sont parmi nous, invisibles, insaisissables, du moins pour le commun des mortels, sauf pour vous. Sont-ils nos ennemis ou peuvent-ils être nos alliés dans une course à la vie qui n'arrête pas ? Alors, je vais poser une première question qui est peut-être simple, à laquelle vous allez peut-être avoir un petit peu de difficulté à nous répondre brièvement, mais sur un jar, qu'est-ce qu'un virus ?
C'est pour saluer. Alors, c'est sûr que ce n'est pas une question facile. C'est pas une question facile pour commencer, parce que les contours de la définition d'un virus sont encore flous. C'était vrai déjà il y a 50 ans, ça l'est toujours, c'est même encore pire, j'ai envie de dire. Donc définir un virus c'est très difficile. Ce qu'on peut peut-être dire c'est quelles sont ses caractéristiques. On va commencer par la première sur laquelle tout le monde va être d'accord, c'est que ce sont des parasites intracellulaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre tout seuls, ils sont obligés de rentrer dans une cellule pour se multiplier. Et d'où la question qui était posée déjà il y a 50 ans et elle est toujours vraie, c'est est-ce que les virus sont des êtres vivants ou pas? Finalement, c'est très difficile et on ne va pas résoudre la question aujourd'hui. Les virus sont incapables de se multiplier tout seuls. C'est-à-dire que si vous avez une goutte d'eau là, sur la table dans laquelle il y a des virus, ils ne vont pas pouvoir se multiplier. Et s'il y en a un certain nombre au départ, ce nombre va rester. Ils vont survivre plus ou moins longtemps, ça dépend des virus, mais en tout cas, ils ne pourront pas se multiplier. Pour se multiplier, il faut qu'ils rentrent dans une cellule et qu'ils détournent la machinerie cellulaire. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans la cellule et puis ils vont exploiter tout ce que sait faire la cellule, fabriquer des protéines, répliquer de l'acide nucléique, à leur profit. Et ils sont très forts pour ça, de rentrer dans une cellule et puis de détourner toute cette machinerie, de dire maintenant tout va être fait pour moi. Voilà. Et c'est pour ça que quand un virus rentre dans une cellule, il y en a des millions qui vont ressortir et ils vont aller infecter les autres cellules. Et c'est là où ils sont très forts. Ils ont un pouvoir extraordinaire de se multiplier à très grande échelle une fois qu'ils sont rentrés dans une cellule. Et puis, il y a encore quelques années, je vous aurais dit, comme caractéristique, des virus, c'est des êtres extrêmement petits, c'est 100 fois plus petit, 1000 fois plus petit qu'une cellule. Et puis maintenant, on a découvert qu'il y avait des virus beaucoup plus grands, finalement. Et tout ça pour vous dire qu'il y a peut-être différentes origines aux virus. Certains sont sans doute des dérivés de nos cellules, c'est-à-dire que ce seraient des petits bouts de cellules qui seraient autonomisés et puis qui auraient comme ça évolué en allant se passer d'une cellule à l'autre, et puis après même d'un organisme à l'autre, donnant des maladies ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des virus qui donnent des maladies, ceux-là on les connaît bien, et puis d'autres qui donnent pas de maladies, ceux-là on a du mal à les connaître, parce que justement on sait pas bien les identifier. Et puis maintenant, on se rend compte qu'il y a des virus plus gros, qui sont presque aussi gros que des cellules, mais qui, justement, ne peuvent pas non plus se répliquer tout seuls, donc pas être autonomes. Et ce sont peut-être, eux ont peut-être comme origine des cellules, mais qui auraient perdu certaines capacités, perdu une certaine autonomie, et qui, encore une fois, pour aller se multiplier, seraient obligés de rentrer dans une autre cellule. Voilà une petite définition des virus pour ne pas mobiliser la parole.
D'accord, merci beaucoup. Alors, les virus, je vais me tourner d'abord. Nous avons un scientifique, donc effectivement, je vais lui poser plein de questions scientifiques, mais nous avons aussi deux auteurs de science-fiction, donc il est intéressant de voir un petit peu ce que la science-fiction a vécu, a vu les virus. Et les virus, on en parle depuis des années. Est-ce que la science-fiction a suivi l'évolution de ce qu'on a appris sur les virus, Monsieur Klein, vous qui avez écrit une histoire de virus il y a bien des années?
J'ai publié en 1967 une nouvelle dans la revue Fiction, qui a été reprise depuis dans différents recueils, qui s'appelait « Les virus ne parlent pas », et où j'exposais l'idée, je développais l'idée que les virus étaient à l'origine de l'évolution. C'est-à-dire qu'ils avaient modifié des êtres de façon à se créer des instruments leur permettant de comprendre, d'observer, d'atteindre le monde beaucoup plus vaste qui les entourait. Quelle intelligence était la leur ? Je n'en sais rien, je n'en parle pas dans ma nouvelle. Disons que c'était peut-être une intelligence collective. Et donc, ils ont transformé, ils ont été à l'origine de l'évolution pour se doter d'instruments, l'équivalent de nos télescopes, l'équivalent de nos ordinateurs, l'équivalent de nos machines, à une échelle beaucoup plus grande, ce qui est exactement ce qu'en tant qu'être humain, nous faisons en créant depuis quelques siècles, en particulier depuis que nous avons inventé la méthode scientifique, qui a été un grand bouleversement dans l'humanité, ce que nous faisons en créant toutes ces machines. Ce que j'imagine aussi dans cette nouvelle, le 1967, si je me permets d'insister sur la date, c'est que c'était relativement novateur, c'est que ces virus sont devenus, enfin ces êtres qui ont créé et orienté l'évolution, sont devenus dépendants de cette évolution, et si bien dépendants, qu'ils sont devenus de purs parasites, au point de perdre leur capacité de se reproduire et de se nourrir. Ce que je voudrais dire, c'est que nous autres, en tant qu'êtres humains, nous sommes un peu dans la même situation. Nous arrivons, avec plus ou moins de difficultés, à nous reproduire. Mais en ce qui concerne notre nourriture, la construction de nos sociétés, nous sommes dépendants de tout le reste du monde vivant. Sans arbres et sans vaches, qu'est-ce qui se passe ? Donc nous sommes dans une situation qui n'est pas à la surface d'une immense sphère, qui est ce que j'appellerais celle du vivant, mais sans lui donner de définition. D'abord parce que de façon générale, je n'aime pas les définitions, elles enferment. Et ensuite, parce que je ne saurais pas le faire, je laisse ça au professeur Roingeard, il y a des gens infiniment plus qualifiés que moi. Donc nous sommes à la surface d'une immense sphère, que j'appellerais la sphère du vivant. Et je disais tout à l'heure, professeur Roingeard, qu'à côté des microbes, c'est-à-dire les bactéries, dont nous sommes d'ailleurs des véhicules pour un très grand nombre, chacun de nous porte en lui entre 2 et 4 kilos de bactéries, qui représentent environ 10 fois à 100 fois plus de cellules que notre corps proprement humain en contient. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être pour les virus, il faudrait inventer une nouvelle catégorie à côté des microbes, celle des nanobes, qui ne relèvent pas de la chimie pure et simple, comme pendant longtemps un certain nombre de mes interlocuteurs scientifiques me l'ont dit et me l'ont soutenu avec certainement d'excellents arguments, mais des nanobes qui font partie de cette sphère très très vaste du vivant.
Alors justement, ces nanobes, donc Max Brooks, vous en êtes servi, vous avez, dans vos livres, dans vos histoires, vous vous servez de ces virus comme base à votre histoire. Vous avez étudié, vous avez travaillé là-dessus, ou comment avez-vous amené ces histoires Comment êtes-vous arrivé à créer vos zombies?
Well, I'd say that we're very lucky to have a teacher with us, because I'm just a student. For me, viruses are interesting, but more than the viruses themselves is the social reaction to the virus, is how we as imperfect beings respond to what I would call the perfect method, the scientific method. It would be wonderful if we as a society responded to viruses with the scientific method. The problem is we are imperfect, and it's that imperfection which has, I think, shaped not just my writing, but my childhood. I'm 41 years old. I'm a child of the AIDS generation. And I watched a disease which is remarkably difficult to contract. You can't get it through the air. It's not waterborne. It's not foodborne. I mean, compared to so many other viruses, there is no logical reason that AIDS should have become a pandemic. The difference is we're not logical beings. And I watched I don't know how it was in this country, but I certainly watched my country have a mass psychosis, where we went from extreme denial, which we can't get it, it's a them disease, to mass panic, to the point where doctors refused to treat patients, where emergency medical technicians refused to treat car crash victims. People were afraid to hug other people. People were afraid to drink out of the same glass of water. I mean, there was a true panic in my country. And then slowly, carefully, we went from that panic to wisdom and to understanding. But imagine where we would have been as a society if in 1980 the President of the United States had made a national announcement about what is AIDS, and how you cannot get it. And we literally could have cured AIDS with a pamphlet, but we didn't. And now, as they say, the genie is out of the bottle, and we'll never get it back in. Millions and millions have died. Millions will die. And that was my template for the zombie. That's specifically why I made my zombies slow and stupid and hard to contract, because it is not that they win, it is that we lose through our own incompetence and stupidity. And I think that to me is the most fascinating part about viruses, is how we as a society react to them.
Le problème effectivement de l'épidémie de sida, c'est qu'on a mis bien longtemps à comprendre d'où venait ce virus, comment il était transmis. Et alors comment un virus comme ça a pu apparaître? C'est vrai que depuis la nouvelle de Gérard Klein en 67, on en a vu quelques-uns apparaître des virus. Le sida, l'hépatite C, des fièvres comme le virus de l'Ebola, le virus de la...